entre les masques et les gants, entre peur et...
Cité Radio, il est 10h.
Family Park, c'est le parc d'attractions en Indre-et-Loire. Venez passer un bon moment en famille ou entre amis et profiter de nombreuses attractions comme le Family Coaster, le Liberty Slide et le Tiki Waka. Et pour cette année 2024, venez découvrir le Fly Swing mais aussi le Jet Boat pour un surprenant baptême de l'air à fond les manettes. Enfin, accrochez-vous à votre sombrero qui vous transportera dans d'incroyables tourbillons. Rendez-vous dès le 20 avril 2024 au Petit Nitilly à Sorigny pour faire le plein de sensations à Family Park. Informations à retrouver sur le site familypark37.com et sur les réseaux sociaux. Et sachez que vous pouvez tenter de gagner vos places et vos passes en participant à notre jeu concours. Pour cela, il suffit de répondre à une question en allant sur notre site citéradio.fr. Family Park, l'aventure commence ici.
Avec Cité Radio, suivez la positive info tout au long de l'année sur le 89.3. La positive info, c'est en Touraine que ça se passe, sur le 89.3, avec Cité Radio. Nous, à Cité Radio, on ne vous emmènera pas faire de la plongée sous-marine, ni nager aux côtés des dauphins. Mais grâce à notre site citéradio.fr, on vous garantit de l'info locale, de la culture et de la bonne humeur, et la possibilité de nous écouter 24 heures sur 24, où que vous soyez. Et ça, c'est déjà pas mal. Citéradio.fr, le site de la positive info.
Bonjour à tous et bienvenue dans Journaliste en herbe, votre émission sur Cité Radio. Pour ce nouveau numéro, nous sommes une fois encore avec les élèves du collège La Bruyère de Tours. Aujourd'hui, notre programme portera sur la liberté de la presse et la liberté d'expression. Nous en débattrons avec nos jeunes invités, notamment à travers des chroniques et un micro-trottoir. Notre invité du jour est Philippe Larbier qui parlera du dessin de presse et de la BD Les Petits Mythos. Bonjour Philippe et bienvenue.
Bonjour.
Journaliste en herbe, ça commence maintenant.
Journaliste en herbe sur Cité Radio, Guillaume Colomba.
Première partie de Journaliste en herbe sur Cité Radio en compagnie des élèves du collège La Bruyère de Tours et de notre invité Philippe Larbier. Alors, nous allons commencer tout de suite cette émission avec Annie qui va nous faire un petit portrait de notre invité du jour.
Bonjour, comme Guillaume vous l'a dit, nous avons un invité nommé Philippe Larbier. Je vais vous le présenter avec un peu plus de détails. Bonjour Philippe Larbier.
Bonjour.
Vous êtes né le 4 août 1965 à Maran en France. Vous êtes un auteur de BD, un dessinateur de presse, mais aussi un scénariste. Votre carrière a commencé à la fin des années 80 dans une petite maison d'édition Tourangelle, Week-end en Doux. Et vous signez sous le nom de PL qui correspond à vos initiales. En 1989, vous entrez aussi à la Nouvelle République du Centre-Ouest, toujours à Tours, comme dessinateur de presse. Vous êtes également l'auteur de plusieurs scénarios, dont C'est pas sorcier et les deux derniers tomes de la série Les Mésaventures du Chevalier de la Maison Blanche. En 1992, vous commencez à signer avec votre vrai nom, mais vous gardez le pseudonyme PL à la Nouvelle République. En 2001, vous lancez une première collection d'humour noir ninja. Depuis 2012, on peut dire que vous êtes au sommet de votre carrière, puisque vous êtes le dessinateur de la célèbre BD Les Petits Mythos. Sur votre page Wikipédia, on peut compter plus de 16 BD et l'on peut dire que vous êtes l'un des piliers de l'édition Bambou.
Une réaction, Philippe ?
D'abord, c'est très très gentil. Et là, juste un petit détail. Il y a quelques oublis quelquefois, parce que Wikipédia ou les Internet quelquefois donnent des informations un peu flottantes. J'avais commencé dans une petite édition Tourangelle qui s'appelle Weekendou. C'est un jeu de mots, on peut le faire. Voilà. Alors, je t'en veux pas, j'ai mis des années à comprendre qu'il y avait un jeu de mots, je suis très mauvais au jeu de mots, mais c'était l'édition Weekendoo, voilà. Autrement, bah, c'est très très gentil, évidemment.
Donc c'est un portrait très flatteur et qui te correspond bien.
J'espère qu'il n'est pas flatteur, qu'il me correspond bien, voilà.
Alors, donc, on a dit, le sujet de cette émission, c'est la liberté de la presse et la liberté d'expression. Alors, on va écouter tout de suite Anna et Léa qui ont préparé une petite chronique sur la liberté d'expression.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de la liberté d'expression et la liberté de presse. Tout d'abord, qu'est-ce que la liberté d'expression ? La liberté d'expression, c'est avoir le droit de penser et de dire ce que l'on veut. Bien évidemment, avec respect, et on ne va pas tout de suite aller insulter Monsieur le Président, c'est évident. C'est aussi avoir le droit de diffuser les informations et c'est donc très important pour les journalistes car cela garantit la liberté de presse. La liberté de presse est encore un tout petit peu différente. Pour commencer, la loi sur la liberté de la presse a été votée le vendredi 29 juillet 1881, sous la Troisième République. L'article 1er énonce que l'imprimerie et la librairie sont libres.
La liberté d'expression a des limites. Tu n'as pas le droit de publier de messages incitant au crime, au délit, au racisme ou alors à la xénophobie. La reproduction de l'image d'un crime ou d'un délit, de même que celle du corps de la victime. La publication de messages violents ou à caractère pornographique, publication de fake news, offense au président ou encore de l'injure.
Écoutez, je pense que c'est pas mal hein, tout ça. Philippe, une réaction?
Absolument, oui, c'est vrai. Non, c'est absolument juste, absolument. Pour la loi de 1881, je n'étais pas au courant, donc j'apprends que c'était cette date-là. Et on voit qu'elle n'a pas été changée depuis. Donc c'est quand même assez périn, quoi.
Et justement, quand on parle de la liberté d'expression, je pense à tous les autres, qu'est-ce que cela vous évoque? Donc on a dit, on n'a pas le droit forcément de tout dire, mais justement, est-ce qu'il y a des limites à tout cela, à la liberté d'expression, comme on a tout dit?
Bah oui, il y a des limites. Faut pas aller dire n'importe quoi si on n'est pas au courant de la vraie situation.
Et justement, donc on a parlé de la liberté de la presse. En quoi est-ce important que la presse soit libre? Est-ce que les journalistes peuvent tout dire?
Bah non.
Oui.
Ils peuvent pas dire des trucs, des choses fausses. C'est puni par la loi, je crois.
Oui.
Ils peuvent pas dire des choses incitant à la haine.
Ouais, c'est vrai.
Faut avoir un juste milieu et se ressourcer entre guillemets, parce qu'il faut avoir les sources sûres, les bonnes informations. Ils vont pas les crier sur tous les toits non plus des choses qui sont fausses alors qu'ils ne savent pas eux-mêmes si c'est sûr.
De l'importance de vérifier les informations, oui.
Bah, ils ont la liberté de presse, mais ils ont pas forcément le droit de donner vraiment leur avis personnel, je crois, quand on est
journaliste. Ça, c'est vrai. Il faut qu'ils savent rester neutres, justement, pour apporter les informations. Ça, c'est clair. Les autres qui veulent réagir?
Bah après aussi la liberté de la presse et d'expression, ça garantit la démocratie, puisque ça veut dire qu'on a le droit de dire ce qu'on, pas forcément entièrement ce qu'on veut, mais au moins ça, on peut divulguer les informations et au grand public.
Et ça dépend aussi du public visé, on parlait de la presse, mais après ça dépend du public visé pour tout cela. Mais c'est vrai qu'on peut pas forcément tout dire dans la presse. En tout cas, il faut rapporter les faits. Et restez neutre, hein, comme on a dit justement. Je vais vous proposer un petit quiz, chers invités. Je vais vous donner des affirmations et vous allez me dire si on a le droit ou pas de les dire. Alors, je vous dis des phrases et vous me dites si on a le droit de les dire. Ce chef d'État est tout sauf un dictateur. Est-ce qu'on, d'après vous, c'est autorisé ou interdit?
Bah, pas vraiment, parce que c'est notre impression à nous. Mm-hmm. Donc déjà, c'est pas garanti 100%. Mmh. Et du coup, vu que c'est notre opinion, bah, on n'a pas forcément le droit... Enfin, on peut le partager, mais pas obliger la personne de le croire.
Oui, c'est vrai.
Bah, ça dépend de la situation. Tu ne vas pas aller en face de la personne et lui dire. En fait, ça dépend de la situation.
C'est vrai que c'est assez partagé, mais on peut forcément le dire, mais garder pour soi, pas forcément rapporter dans la presse notamment. Donc ça, voilà. Donc c'est chacun son avis là, sur le sujet. Alors je vous donne une autre phrase. Cet homme est un assassin, il faut le tuer. Est-ce que d'après vous, il faut le dire ou pas?
Bah non.
Ah bah non, bien sûr que non. C'est interdit de souhaiter publiquement la mort de quelqu'un, ça c'est clair. Oui.
Et puis ça incite à la haine. Ça pousse les gens à aller vouloir, entre guillemets, le tuer.
Bah, au crime aussi.
Oui, voilà, au crime. Oui. Donc c'est pas forcément une bonne idée, enfin même du tout.
Bah non.
Bah non, bien sûr que non. Donc voilà, d'où l'importance de mesurer ses propos pour tout cela. Alors je vous donne une autre affirmation. Je n'ai pas aimé ce film qui n'est pas du tout drôle. Est-ce qu'on a le droit de le dire?
Bah oui.
Ah bah oui. Hein.
T'aimes pas.
Bah oui. Il y a des films justement que vous avez vu récemment que vous n'avez pas aimé. Voilà. Vous êtes allé au cinéma? Non, pas du tout.
Oui. Si. Je regardais le dernier Avengers. C'était
pas terrible. D'accord. Bon, heureusement que vous avez quand même aimé pas mal de choses. C'est bien de vous en parler justement entre vous des films que vous aimez, des spectacles,
oui.
Tout ça.
D'accord. Bah oui.
Oui. Alors, donc une autre affirmation, les personnes homosexuelles ne devraient pas avoir les mêmes droits que les autres. Est-ce que d'après vous, on a le droit ou pas de dire ça?
Bah non.
Ah bah non, bien sûr que non. Justement, ça c'est ce qu'on disait, la discrimination, ça tout ça, c'est interdit, c'est puni par la loi, hein, donc faut faire attention à tout cela. Alors une autre affirmation, je suis contre tout ce que vous dites, est-ce que d'après vous, on a le droit de le dire?
Bah oui, parce que c'est notre opinion.
Oui, c'est vrai.
Voilà, donc s'il n'est pas d'accord, bah, il le dit. Mais après,
en gros, s'il fait, il ne va pas aller contre, quoi.
Voilà.
C'est la liberté d'expression. En vrai, il n'a rien dit de mal. Enfin, il a juste dit qu'il n'était pas d'accord. Tant qu'il n'y a pas une insulte, on va dire, bah, c'est OK.
Tout à fait. C'est vrai. Donc, ce qu'on appelle la liberté d'opinion. Exactement. Et alors, une autre phrase. Tous ces Espagnols sont des fainéants. Est-ce que, d'après vous, on a le droit de le dire, ça ?
C'est pas vrai.
Bah non. Alors déjà, c'est pas vrai. Et puis surtout, on n'a pas le droit de le dire. Donc, faut faire... Ça aussi, c'est la discrimination. Donc, faut faire attention à tout cela. Donc, voyez... Alors, qu'est-ce que vous avez retenu, justement ? Donc, il y a plusieurs limites à la liberté d'expression. Donc, vous en avez parlé dans la chronique, Anna et Léa. Donc... Est-ce qu'on peut rappeler justement les limites à la liberté d'expression ?
Bah, on n'a pas le droit de publier des messages incitant au crime, au délit, au racisme et à la xénophobie.
Ouais.
On n'a pas le droit à la reproduction de l'image d'un crime ou d'un délit de même que celle du corps de la victime. La publication de messages violents ou à caractère pornographique, publication de fake news, offense au président de la République ou encore l'injure.
C'est ça. Donc injure, oui, diffamation, incitation à la haine raciale, apologie du terrorisme, hein, entre autres, hein, donc beaucoup de choses. Justement, est-ce que vous qui êtes sur les réseaux sociaux ou vous regardez les informations, vous faites attention justement à tout cela, vous vérifiez attention, en tout cas vous vérifiez tout ce qui est publié, vous faites attention à ne pas relayer aussi tout ça.
Bah bien évidemment, enfin on va pas, ouais. On va pas mettre une mauvaise image de nous-mêmes, enfin c'est bien même. Stupide, voilà. Et enfin, il faut toujours faire attention à ce qu'on publie. Ça peut, même si pour nous c'est pas un mal, mais pour d'autres par exemple, ça peut être. Donc, faut avoir des limites.
Tout à fait. Les autres, vous êtes d'accord ?
Oui.
Philippe, une réaction ?
Oui, je sais pas, parce que si on parle de la liberté de la presse, c'est pas tout à fait la même chose que la liberté de la radio ou de la télévision. C'est pas les mêmes. La liberté de la presse, je pense qu'elle est totale. La seule chose, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut parce que, d'abord, le journal, lui, s'engage sur ce que la personne dit ou écrit. C'est-à-dire que si le journaliste commence à écrire quelque chose de diffamatoire, c'est le journal qui est responsable, mais pas par force. À mon avis, là, je parle sous réserve de quelqu'un qui s'y connaisse bien, c'est pas la justice qui va arriver. C'est une association qui va dire, attendez, ce que vous écrivez là, vous insultez telle personne. Vous... Mmh. La personne qui est diffamée peut faire un procès au journal, et à ce moment-là, c'est le journal qui se fait punir, et non pas la personne qui a écrit l'article. En ce sens, les médias, enfin la presse, ne dépend pas des mêmes prérogatives que les médias comme la radio ou la télévision, par exemple. Voilà. Nous, en presse, on est tenus par des gens... Enfin, c'est ce que je connais le mieux. Si je commence à diffamer, par exemple, une personne, sur un dessin ou même un article... la personne peut très bien faire un procès en disant « Vous m'avez diffamé, vous me devez tant d'indemnités. » Ça se passe souvent comme ça. C'est pas un procureur qui va arriver « Vous avez diffamé ou vous n'avez pas diffamé. » La justice ne peut pas décider si le journal a raison ou pas sur une diffamation. Elle a autre chose à faire, je pense. Par contre, la personne incriminée peut très bien dire « Attention, que vous m'avez insulté. » Ou si on fait quelque chose contre les homosexuels, par exemple, une association homosexuelle pourrait très bien arriver en disant « Je vous fais un procès, monsieur, parce que vous avez insulté notre communauté. » C'est plus compliqué, à mon avis, que depuis 1969, pour vous dire, la seule fois où un journal a été interdit à cause d'un article, je crois que c'était Harakiri, c'était par rapport à la mort de Charles de Gaulle, où il s'était moqué en faisant une allusion, là, vous ne pouvez pas connaître, bal tragique à Colombey, un mort. C'est une allusion, voilà, je ne rentre pas dans le détail, et on avait un peu insulté par l'humour, évidemment, la mort du général de Gaulle, et donc le journal a été interdit. Je n'ai pas d'exemple d'interdiction de journaux, d'information ou du satirique depuis. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de procès, ça c'est vrai. Voilà. Ça c'est ma réserve, peut-être que quelqu'un peut dire que j'ai tort, je ne sais pas. C'est les partis civils qui font la justice dans la presse. Voilà.
Ce qui est vrai, ce qui est très juste. Alors, chers invités, est-ce que vous avez des questions à Philippe Larbier ? Alors, c'est parti.
Pourquoi avez-vous choisi le métier de dessinateur ? Avez-vous toujours voulu l'exercer ?
Alors, j'ai toujours voulu l'exercer, et donc je ne l'ai pas choisi. Parce que
bah, comment l'idée ans... vous est venue, alors ?
Ah non, c'est pas l'idée. C'est quand on sait le faire, l'idée... Quand on dessine un peu mieux que les autres, on a l'impression que sa mère nous dit « Tiens, tu dessines mieux que tes camarades », et puis qu'on aime ça, ben et qu'on ne sait pas faire grand-chose d'autre, ben c'est pas tellement, on ne choisit pas, c'est le métier qui nous choisit. C'est un peu comme en amour. Là, pour le coup, ça ne se décide pas. Si j'avais décidé ce que je voulais faire, j'aurais peut-être fait un métier encore plus prestigieux. Voilà.
Comment avez-vous eu la passion du dessin ?
Parce que j'aimais dessiner. Oui, c'est aussi parce que les chemins se rétrécissaient un petit peu. Moi, j'adorais dessiner, je voulais faire ce métier. Et en fait, j'ai tout consacré au dessin, mais pas tellement aux études. Et à la fin, je me suis rendu compte que je ne pouvais rien faire d'autre que le dessin. Donc, c'est justement parce que je n'avais plus le choix que j'ai fait du dessin. C'est-à-dire que ça m'a forcé à faire du dessin. Si j'avais pu rentrer au PTT ou... Enfin, PTT, ça se dit peut-être même plus tard. dans un bureau à la poste, par exemple. Parce que mon père me prescrivait, il espérait que je fasse ça, parce que je n'étais pas très doué en études. Je serais peut-être resté à la poste. Mais là, j'avais vraiment rien devant moi, si ce n'est le dessin. C'était ce que je faisais de mieux, ou de moins mal. Voilà. Donc c'est un peu par dépit, en fait, que je me suis perfectionné là-dedans.
Quel parcours avez-vous eu, surtout en termes d'études ou de formation, pour ceux qui nous écoutent, s'ils veulent se lancer dans le dessin comme vous ?
Alors, moi, j'ai commencé il y a très longtemps. Donc le métier a vraiment changé. C'est pas du tout la même nature de mauvaises études. Je n'ai pas dessiné entre deux boulots. Et puis après, j'ai fait des trucs pourris parce que justement, je n'avais pas fait d'études. Et puis après, j'ai commencé à mettre un dessin dans un journal, un petit truc. Il y avait beaucoup de journaux à l'époque. On pouvait caser un petit dessin, là, on gagnait un peu de sous, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et puis à la fin, ça faisait un salaire, quoi. Voilà. Mais je n'ai pas fait d'études, honnêtement. Aujourd'hui, j'encourage plutôt les gens à faire des études, ça c'est clair. Parce que c'est beaucoup plus perfectionné maintenant.
D'où viennent vos idées ? De quel livre êtes-vous le plus fier ?
Alors, mes idées, elles viennent... En fait, on ne sait pas comment ça vient, une idée... Alors, pour la Nouvelle République, par exemple, il faut que je trouve un... Alors, c'est un travail particulier, je ne sais pas si on aura d'autres fois l'occasion d'en parler de manière plus précise. C'est que moi, déjà, je me mets des barrières dès le départ. Dès que j'ai un texte, je commence à me mettre des barrières, parce qu'on parlait de la liberté d'expression. Moi, j'ai pas envie. Alors, je mets un petit bémol sur ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que je pense que on n'a pas le droit de donner son impression ou ses sentiments. Je pense que c'est pas vrai. Il faut pas les donner dans un journal généraliste comme La Nouvelle République, puisque c'est le journal local. Mais dans ce qu'on appelle les journaux d'opinion, on a le droit de donner son impression. Si on travaille à l'Humanité, qui est un journal communiste, pour marquer les choses, on a le droit de donner ses idées communistes, parce qu'on est on a un lectorat communiste, et là, on a le droit de donner ses opinions. Dans un journal très à droite, je ne sais pas, Valeurs Actuelles, par exemple, on a le droit de dire ce qu'on pense aussi, parce que ses lecteurs sont comme ça. Pensent comme nous, comme les lecteurs. Et par contre, dans un journal comme La Nouvelle République, qui est plutôt centriste, qui ne doit déranger personne, ils doivent penser... Voilà, nos lecteurs pensent comme nous, justement, comme ceux qu'ils faisons. Et on ne doit pas les choquer. Donc moi, quand j'ai un dessin à faire, je ne veux pas donner une impression d'être de droite ou de gauche, parce que les lecteurs... n'attendent pas de ça de moi. Voilà. Donc je me mets des barrières d'office et justement je rentre dans le cadre de ce que vous dites, c'est-à-dire ne pas donner ses opinions et d'être un peu drôle, mais pas de marquer la chose, faut pas choquer, quoi. Voilà.
Donc il y a toujours une ligne éditoriale avec La Nouvelle République. Il y a des dessins que tu as fait qui ne sont pas arrivés justement d'être un peu retoqués, voire censurés.
Alors, la censure, c'est un terme que je n'aime pas quand on parle de presse quotidienne ou quand on parle de presse en général.
Ouais.
La censure, pour moi, c'est l'État. Un État qui décide un journal ne doit pas paraître. Ça, c'est la censure. Franchement, depuis Harakiri en 1969, il n'y a pas d'exemple de censure en France. Qu'un journal me dise « Je ne veux pas que ton dessin paraisse parce que ça ne correspond pas à la ligne éditoriale », ce n'est pas de la censure. Le journal, c'est un groupe privé. C'est quelqu'un, ce sont des gens qui ont leur lecteur. Si moi, je faisais un dessin qui devait choquer et qu'il y avait un procès, par exemple, je fais un dessin... mais ça peut être quelque chose... Je vais vous donner un exemple de parce que là, on parle de généralité sur des choses graves comme le racisme, ce qu'on veut. Mais par exemple, je me souviens, à la Nouvelle République, il y a une trentaine d'années, quand j'ai commencé, il y avait un dessinateur qui avait fait un dessin. On parlait des grandes surfaces. Vous voyez, les grandes surfaces, des trucs qui n'allaient pas dans les grandes surfaces. Et lui, dans son dessin d'humour, dans la même catégorie de mes dessins, hein, dans la même rubrique, il avait fait un dessin où il avait mis l'enseigne, pour rigoler, il s'était trompé avec un jeu de mots, l'enseigne du magasin C'était tout à fait gratuit. C'était parce que ça, il y avait un jeu de mots à faire. Eh bien, l'enseigne du magasin, pendant un an, a refusé de faire de la pub dans la Nouvelle République. La Nouvelle République a perdu des millions comme ça. Alors, c'est pas de la censure, c'est simple. Alors, le gars... Attends un peu. Mais celui qui a payé, c'est pas le dessinateur. Moi, si je fais un dessin qui est très tendancieux et tout ça, si par exemple, le lecteur en chef est très malade et qui me le passe sans réfléchir à ce que je fais, c'est le journal qui paiera l'amende. C'est pas moi. Vous savez peut-être pas ça, mais un journaliste n'est pas condamné sauf s'il est rédacteur. Ça, c'est autre chose, parce que moi, mon rédacteur, j'ai un rédacteur qui travaille, qui s'occupe de la rubrique. Je lui propose le dessin. Si le dessin a un problème, c'est le rédacteur qui se fera enguirlander par le directeur du journal. C'est qu'il y a quand même une hiérarchie comme ça. C'est pas moi, à la limite, je me ferai virer. Mais lui aura un blâme plus grave. Voilà.
De quel livre êtes-vous le plus fier ?
Alors, les petits mythos, c'est ce qui marche le mieux. L'avantage des petits mythos, c'est que c'est mes livres, voilà, c'est personnel. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années au journal de Mickey, où je faisais Mickey et tout ça. Ça se passait bien, mais c'est pas personnel. J'ai fait beaucoup de mascottes pour la publicité, des choses comme ça, même si ça marchait bien, qu'on les voyait éventuellement dans les spots à la télévision. C'est jamais très personnel, parce qu'il y a plein de gens derrière qui sont en train de dire « Ouais, mais ton personnage, il faut qu'il soit mieux comme ça, comme ça ». On n'est pas vraiment créateur. Là, ce que je fais avec cette série-là, je suis quand même assez créateur. Enfin, je suis créateur avec Christophe Cazeneuve au scénario. Donc, je suis fier parce que ça marche bien et puis que je le dois qu'à moi-même, entre guillemets.
Est-ce que c'est bien payé ? Vous travaillez pour la passion ou l'argent ?
Ah, d'abord, je... c'est odieux comme question.
Je suis sensible.
Non. Bah, si. Alors, tu veux que je t'épate ? Eh bien, je travaille par la passion et pas du tout pour l'argent. Et je vais te dire pourquoi je ne travaille pas pour l'argent. Parce que j'en gagne assez pour ne pas y penser.
Ah,
est-ce que ma réponse te satisfait ? Voilà.
Ah bah, okay.
On parlait des petits mythos, Philippe. Donc, on est à combien aujourd'hui de BD ?
Ça revient à la question aussi de l'argent. Ouais. Combien de BD ? Alors, combien de tomes ou combien de vendus ?
Combien de tomes, pardon.
Ah, pardon. Alors, je suis en train de finir. Je suis sur la fin du 15e tome. Puis, on a fait un petit peu des hors-série. Mais on 15 plus 2, 3 tomes de hors-série, donc ça fait 18 tomes, quoi, voilà. Hors-série, parce que nous, on fait de la BD, mais on fait aussi des bouquins qui sont spécialisés. Le prochain qui va sortir au mois de juin, c'est sur les Jeux antiques, donc voilà, c'est un hors-série, voilà.
Combien de temps vous faut-il pour écrire un livre ?
Ah, moi, je ne l'écris pas, moi, je le dessine.
Le dessiner.
Alors, celui qui l'écrit, c'est Christophe Cazeneuve, vous connaissez peut-être, d'ailleurs, ça vous dit rien ?
Non.
Il fait d'autres BD, il fait les Sisters aussi, si ça vous dit quelque chose.
Ah bah oui.
Voilà.
Ça
leur part. C'est malheureux. Hein.
Combien de temps il vous faut pour
Alors, combien de temps Moi, un album sort tous les ans. Donc, au moins un an. Enfin, pas plus d'un an, parce que sinon, je me fais enguirlander. Et puis, le temps qui me reste de libre, je fais une hors-série à côté, je fais d'autres choses. Et puis, je fais beaucoup de salons aussi, de dédicaces, de choses comme ça. Donc, je suis très occupé, quoi. Voilà.
Okay. Est-ce que vous avez déjà ne plus avoir d'inspiration pour vos dessins ?
Ah non, non, non. Ça n'arrive pas à la feuille blanche. Ça arrive quand on cherche une idée. Par exemple, la Nouvelle République, ça m'arrive de me dire je ne trouverai pas d'idée sur un sujet que j'ai déjà traité 25 fois. Par exemple, si je dois faire des choses sur l'écologie, sur le réchauffement climatique, j'ai dû faire 40 dessins sur le sujet. Mais on y arrive toujours. Mais alors, je ne dis pas que les idées sont bonnes, mais on y arrive toujours, en fait. Donc c'est... Après, est-ce qu'il m'arrive de ne plus avoir d'idée ? J'ai toujours une idée à la fin. Est-ce qu'elle est bonne ? Ça, je ne sais pas. Voilà.
Est-ce qu'on vous a... Enfin, quand vous avez fini vos dessins, vous les montrez forcément à quelqu'un. Ouais, et ben, est-ce que on vous a déjà refusé
Alors, parce que le dessin est pourri.
Je sais pas comment.
Oui, oui. Alors, ça dépend. Si c'est par rapport à la Nouvelle République, par exemple.
Oui.
Oui, c'est arrivé. Alors, franchement, ça arrive une fois ou deux par an, et ça se passe jamais mal parce que d'abord, j'ai un rédacteur. J'ai toujours eu des rédacteurs qui étaient intelligents, qui étaient bien. Je me suis toujours entendu avec mes rédacteurs. Je comprenais leurs prérogatives. Je surjouais quelquefois la colère. Ils savaient que je surjouais, parce qu'en fond, c'est pas si grave. Et je n'ai jamais considéré ça comme une censure. Parce que là, je travaille dans un journal privé, qui ont des devoirs aussi de pas choquer, de pas avoir des problèmes, de pas avoir ensuite des réclamations. Donc je comprenais toujours. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on fait. On a toujours l'impression de faire le bien, mais si tout le monde faisait le bien, ça se saurait. Donc moi-même, ça peut m'arriver de dérailler aussi dans un dessin. Mais franchement, ça arrive très, très rarement.
Est-ce que souvent, vous ratez vos dessins ?
Alors franchement, dans ma carrière, si je te réponds vraiment franchement, 95% je les rate. Mais tu ne te rends pas forcément compte. Mais moi, je le sais. Je ne suis pas du tout admirateur de mes dessins.
Et les techniques ont évolué justement depuis que tu fais du dessin.
Alors maintenant, je travaille sur Cintiq.
Ouais.
Alors donc c'est un autre, mais c'est le même travail. C'est-à-dire que moi, je travaille sur une petite Cintiq qui correspond au format de papier sur lequel je dessinais. J'ai un stylet et si je dois faire un trait à la règle, je pose ma règle dessus. Je suis pas du tout informaticien moi, mais c'est mieux. Au fond, la Cintiq, l'instrument, j'ai changé d'instrument, mais ça revient un peu. Ah, je sais pas si vous connaissez. Là, je parle aux enfants, mais toi aussi. Les machines à écrire, vous connaissez. Avant, les machines à écrire, si on se trompait, fallait mettre du blanc, fallait corriger, fallait. Et après, il y a eu les machines dans les années 80 qui sont les machines à traitement de texte. Ce qui permettait de corriger au fur et à mesure et puis après de faire défiler. On n'avait pas à corriger à chaque fois. On pouvait se recorriger à chaque fois sans que ça gêne le texte. Eh ben, la machine avec laquelle je travaille, donc une Cintiq avec un logiciel, c'est pareil. Je peux corriger à l'infini. Mais le dessin est le même. Ça ne change pas mon travail.
Avez-vous vendu beaucoup de Les Petits Mythos?
Oui, c'est subjectif. Mais oui, parce que maintenant, on a dépassé le million, quoi, quand même. Ça, donc ça fait beaucoup. Mais nous, on a un lectorat. Contrairement aux lecteurs, aux BD qui sont pour adultes, qui sont pour grands, qui n'ont pas besoin de renouveler le lectorat, parce que le lectorat reste fidèle. Nous, après 14 ans, les gamins ne nous lisent plus, en fait. Ils commencent assez tôt, mais ils arrêtent de nous lire. Donc, avec Christophe, le scénariste, on est toujours obligé de renouveler notre lectorat. C'est une chance, quelque part, parce qu'on est obligé de se poser toujours des questions. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est compliqué, mais c'est une chance en même temps. Voilà. Donc, on peut très bien, dans 5 ans, par exemple, disparaître complètement. Si les lecteurs ne se renouvellent pas. Alors, nous, on a la chance d'être en médiathèque, dans les CDI, dans les écoles, tout ça. Donc, même si quelqu'un ne veut pas nous lire, il tombera forcément dessus sur notre album en bibliothèque. Mais en termes de lectorat, si on disparaît, on disparaît. C'est que voilà.
L'actu locale en Touraine, c'est sur Cité Radio, 89.3. Journaliste en herbe, Guillaume Colombat.
Retour dans Journaliste en herbe sur Cité Radio, toujours avec les élèves du Collège La Bruyère de Tours et de notre invité Philippe Larbier. Alors, vous le savez, chers invités, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la liberté de la presse et la liberté d'expression, mais on va aussi parler d'un autre sujet important qui est Cartooning for Peace. Alors, je crois, Marie-Pauline, que tu as préparé une petite chronique pour nous.
Oui, bonjour à tous. Nous allons vous parler de Cartooning for Peace. Cartooning for Peace est une association de loi de 1901 qui a pour but de soutenir le dessin de presse. Cartooning for Peace a été créé en 2006 par Planto, qui est le président d'honneur, Kofi Annan et Patrick Chapat. Son siège est à Paris. Cette association regroupe 280 dessinateurs et dessinatrices de presse qui viennent de 74 différents pays. Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs de presse engagés qui combattent avec humour pour le respect des cultures et des libertés. Cartooning for Peace expose les thèmes comme la liberté d'expression, les droits de l'homme, la censure, les droits de l'enfant, l'Europe et la peine de mort. Cartooning for Peace a vraiment été créé le 26 mai 2008. L'association a fait des interventions dans des écoles et dans des prisons. Cartooning for Peace signifie dessiner pour la paix, est une association qui sensibilise le monde par des dessins en délivrant des messages de respect et de tolérance et de paix. Merci.
Très bien. Donc, est-ce que vous avez vu justement une exposition sur le thème de Cartooning for Peace? Est-ce que quelqu'un peut en parler?
Alors. J'en ai vu une exposition.
Oui, vas-y Marie-Pauline.
Sur la nature, enfin. Plus ça parlait du monde, sur la pollution.
Et quel genre de dessin tu avais vu? Est-ce que tu peux donner des exemples?
Nous avons vu tout à l'heure une fleur et avec un cœur.
Et il y avait aussi un homme, il était dans sa voiture et il polluait l'air avec le gaz d'échappement.
Et vous avez pu les rencontrer justement, les personnes qui ont organisé cette exposition? Vous avez pu discuter avec eux? Pas du tout.
Non, pas du tout.
D'accord. Mais justement, le dessin de presse, Philippe, toi, je sais ce que tu fais. Est-ce que tu as pu rencontrer justement les gens de Cartooning for Peace?
Non, en l'occurrence, non. Mais parce que ils sont à Paris souvent, non? Ils sont à Paris, j'imagine.
Je pense qu'ils se déplacent un peu partout, dans les collèges et les lycées.
Alors, j'ai été plus proche des dessinateurs de presse quand j'ai démarré dans la Nouvelle République, parce que j'en faisais énormément et je gagnais vraiment un peu ma vie avec ça. Depuis que je fais autre chose un petit peu, je me sens pas légitime dans ce milieu-là. Je me dis pas d'ailleurs des dessinateurs de presse, parce que dessinateur de presse, c'est vraiment un métier. Moi, j'en connais quelques-uns quand même qui font. Je connais même beaucoup. C'est vraiment un métier particulier. Il faut faire que ça. Il y a un vrai dessinateur de presse. Il fait que des dessins de presse. Et il fait pas de. Voilà, moi, je fais de la bande dessinée en l'occurrence. Le dessin de presse. Et, en plus, c'est pas. Moi, je fais pas de dessin vraiment d'opinion. C'est toujours un peu arrangé quand même. Là, en l'occurrence, c'était ça. Ça contredit un petit peu d'ailleurs le débat qu'on a eu tout à l'heure sur la liberté de la presse, en disant il ne faut pas que les artistes ou les dessinateurs ou les journalistes donnent leur opinion. Et en fait, il ne faut pas qu'ils le donnent trop dans un journal régional, mais dans un journal d'opinion, ils ont le droit et le devoir de le faire. Voilà.
Les autres voulaient réagir ou vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit?
Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit.
Oui, donc Philippe, on parlait donc des dessinateurs de presse. On avait cité Plantu précédemment. Est-ce que tu arrivais de les rencontrer dans le cadre de ton métier ?
Alors, il y a quelques années, j'en rencontrais beaucoup, effectivement. Après, c'est des dessinateurs d'opinion. Alors, Plantu, c'est justement celui qui est le moins d'opinion. C'est pas forcément le plus drôle, d'ailleurs. Parce que justement, alors ça contredit un peu la première partie du débat, si tu veux. C'est-à-dire que... Au fond, si on doit être neutre et avoir que des bons sentiments, on n'est pas très drôle. C'est comme les romans trop gentils, c'est pas les romans les plus passionnants. Il faut toujours qu'il y ait un peu un mauvais fond. Et les dessinateurs qui ont un peu un mauvais fond, en tout cas un mauvais esprit, sont toujours plus pertinents. Plantu, c'est un très bon dessinateur, mais c'est un dessinateur qui est dans le consensuel. Donc il n'est pas très passionnant. Voilà, j'adorerais vivre dans le monde de Plantu, ça c'est clair, c'est le monde un peu paradisiaque. Mais la réalité, malheureusement, le monde n'est pas comme celui qui le décrit. Et voilà. Donc, non, c'est un métier particulier, les dessinateurs de presse. Il faut vraiment... Ceux que j'ai connus étaient à 100% dedans et à 100% dans l'actualité. Il faut vraiment avoir du souffle. Tous les matins, il faut lire des journaux. Voilà. Alors, il y a des dessinateurs aussi qui travaillent. Ça, c'est un métier vraiment particulier. Qui font une quinzaine de dessins par jour et qui les envoient dans les agences. Et après, les agences, la Nouvelle République prend comme ça quelquefois les dessins de Michel Deligne, qu'on voit sa signature, il envoie des dessins partout, et puis les journaux en prennent ceux qui les intéressent, et donc le dessinateur de presse vit comme ça. C'est un métier, on ne gagne pas très bien sa vie, sur le principe, quand même.
Ouais.
Pas principe, ouais.
D'où l'importance de faire beaucoup de choses à côté, et c'est ce que tu fais avec les petits mythos.
Voilà. Ouais, parce que je n'étais pas du tout un dessinateur. Le dessin de presse, alors, je le suis plus paradoxalement, je suis plus dessinateur de presse aujourd'hui que je ne l'étais avant, et pour une raison très simple, c'est qu'avant, moi, j'étais dessinateur de presse dans un journal La Nouvelle République, donc, mais j'illustrais des rubriques qui étaient très des couées de lecteurs sur des problèmes administratifs, des choses comme ça. C'était pas des problèmes internationaux, quoi que ce soit. Et depuis quelques années, depuis 2-3 ans, j'illustre, donc j'étais un dessinateur un peu, un dessinateur humoristique, je dirais, pas un dessinateur de presse. Et depuis 2-3 ans, la direction a changé un peu la nature de la rubrique et elle est beaucoup plus politique. Et là, je suis beaucoup plus obligé de m'asseoir sur l'actualité, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà.
Ouais. Ça ne doit pas être fatigant d'être que dedans.
Je pense. Non, c'est pas le terme fatigant. La fatigue, c'est qu'on n'en peut plus physiquement. C'est pas, non, c'est plutôt, dire, mentalement.
Ouais, mais je pense que honnêtement, quand on est dans ce genre de sujet, c'est ça va être quand même bien de pouvoir s'ouvrir à d'autres choses qu'être resté sur le même sujet tout le temps.
Ils ont des vies, les dessinateurs, ils font ça la journée, mais enfin le soir, ils sortent. Enfin, quelqu'un qui fait n'importe quel métier, un comptable, il arrête de faire de la comptabilité le soir. C'est un métier, on n'est pas comme ça tout le temps. L'actualité, après, il faut que ça soit passionnel. Mais un journaliste, c'est pareil, ils sont obligés de s'intéresser à plein de domaines. Alors c'est pour ça que d'ailleurs les dessinateurs ont un avantage sur les journalistes, c'est qu'ils peuvent soutenir ces informations qui sont quand même vraiment lamentables depuis pas mal d'années par un mauvais esprit. Le mauvais esprit, ça permet de survivre à beaucoup de choses. Un dessinateur humoristique, au moins, il a un mauvais esprit. Un journaliste qui a un mauvais esprit, ça passe pas très bien. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions à notre invité?
Justement, parlons de ça. Dans quel de vos deux métiers avez-vous l'impression d'avoir plus de liberté?
La liberté, c'est pas une fin en soi, en fait, dans l'absolu. La liberté, si dans le journal dans lequel je dessine, dans La Nouvelle République en l'occurrence, on me dit non, tu dois pas faire des dessins contre les homosexuels, je prends pas ça comme quelque chose qui m'empêche de la liberté. La liberté, c'est pas de faire faire ce qu'on veut. La liberté, c'est de faire ce qu'on aime. C'est pas tout à fait pareil. Dans les deux métiers, j'ai ma liberté. Les dessins, parce que la liberté que je veux bien avoir, si tu veux, je vais pas faire des dessins aberrants en me disant tiens, je cours après la liberté. La liberté, c'est pas une fin en soi. Et dans les deux, c'est pas les mêmes impératifs. Je sais que la Nouvelle République, si je rate un dessin, je m'en fous un peu en fait, pour être franc, parce que je sais que le lendemain, il sera oublié. Mais en même temps, il sera oublié, même si je le réussis. Donc la vie, c'est comme ça, en fait. Un avantage pousse toujours à un inconvénient et vice-versa. C'est-à-dire que le côté éphémère des dessins de presse, c'est une liberté, quelque part, de pouvoir rater son dessin. Mais par contre, si on le réussit vraiment bien, c'est un peu embêtant de se dire que dans deux semaines, tout le monde l'aura oublié. Un album, ça reste. Voilà. Alors, au moins, il est feuilleté longtemps. Voilà.
Préférez-vous dessiner pour la presse ou pour les BD ?
Alors, pour les BD, parce que j'ai l'impression de faire une œuvre utile, quoi. C'est de me dire, je fais quelque chose qui se... Parce que ça reste, en fait, voilà. Mais j'ai travaillé longtemps au journal de Mickey. Alors, j'avais beaucoup de lecteurs au journal de Mickey, parce que c'était vraiment très, très lu. J'ai fait beaucoup de choses qui étaient très, très lues, en fait, mais qui restaient pas. Et puis, il y a un moment, il y a une bouffée d'orgueil, comme ça, qu'on a vers 40 ans, où on se dit, bah tiens, j'aimerais bien faire quelque chose qui reste un petit peu. Et le livre, on n'a pas fait mieux encore. Alors peut-être que c'est... Paradoxalement, le livre est peut-être un peu obsolète pour votre génération, mais c'est ce qui restera, parce que vos images de virtuelles, elles vont disparaître. Les livres, comme les photos sur papier, comme on faisait il y a 40 ans, c'est obsolète, ça ne vous photographiez plus avec du avec où le papier sort à la fin. Enfin, vous avez des photos, des clichés sur papier. Vous ne faites plus ça. Alors, ça fait vieillot pour vous. Mais en fait, dans un siècle, ces photos resteront. Tout ce que vous photographiez sur votre appareil aura disparu. Le livre, il restera malgré tout. Même si c'est devenu obsolète aujourd'hui, il restera. Je pense que c'est une petite remarque que je me fais maintenant. Voilà, donc, oui. Vas-y.
Pourquoi avez-vous gardé le pseudonyme de Fel à la Nouvelle République ?
De PL ? Alors, la raison,
c'est tes initiales.
Alors, c'est mes initiales. Mais alors, au départ, quand j'ai commencé à dessiner, ça, c'est les petites lubies qu'on a quand on est jeune dessinateur, on cherche toujours un pseudo, histoire de se démarquer un petit peu, de faire le malin. Et j'ai signé PL. Quand j'ai commencé dans le métier, tous les dessins, je signais PL. Et puis, même mes premiers albums étaient sous ce nom-là. Et puis, quand j'ai vers l'an 2000, un petit peu avant, il y a un gars, j'apprends qu'un gars signe PL pareil que moi. Enfin, vraiment pareil, avec un dessin assez proche. J'étais un peu en colère, je lui ai dit, mince, il prend mon nom. Donc, j'essaie de l'avoir. À l'époque, c'était compliqué de téléphoner. Vous ne connaissez pas ça, mais j'avais son nom. J'avais appris où il habitait à Nancy. Il a fallu que j'aille à la poste, comme on faisait, pour prendre l'annuaire de Nancy. je parle sous les... C'était, il fallait chercher le nom et tout, et je l'appelle comme ça de la poste, parce qu'on n'avait pas le téléphone, tout le monde n'avait pas le téléphone à l'époque. Et puis il me dit, non, mais c'est très bien, moi, enfin en 2000, j'avais quand même le téléphone. C'est très bien, moi c'est comme ça, ben écoute, on n'a qu'à s'appeler la PL Compagnie, on va travailler ensemble. Moi je trouvais ça un peu gonflé, j'avais passé 10 ans de ma vie à travailler dur sous ce nom-là. Puis je me suis dit, après tout, je vais reprendre mon nom de jeune fille, Philippe Larbier, mon vrai nom. Et comme ça, j'ai eu 10 ans de métier pour me préparer. Alors, ça, je suis un peu vicieux, hein, faut reconnaître. J'ai eu 10 ans de métier pour faire n'importe quoi, parce que j'ai appris mon métier, donc c'était pas très bon. Et puis je suis arrivé comme une génération spontanée. Philippe Larbier, il arrive, on sait pas d'où il vient, et il a déjà 10 ans de métier sans que les gens le sachent. Et donc j'ai fait ça, les nouveaux bouquins étaient... Donc les gens qui me connaissaient pas avant, qui ont découvert mes bouquins à partir de l'an 2000, se sont dit, c'est un type nouveau, mais qui a un peu de métier. On dit, tiens, il est pas mal ce gars-là. Et PL, je pouvais pas trop changer parce que c'était le même travail. Je pouvais pas faire des dessins sous le nom de PL et du jour au lendemain faire Philippe Larbier. Et comme le travail le plus régulier que je faisais à l'époque, c'était au journal de Mickey, je signais Walt Disney. Donc il n'y avait pas de. Voilà. C'est une circonstance bienveillante à la fin, mais voilà. Ouais. C'est peut-être un peu compliqué la réponse. Mais
non, voilà. C'est très clair, il n'y a pas de souci. Une autre question, oui.
De quel livre êtes-vous le plus fier ?
Ah bah, je pense que la question ne se pose pas.
Alors, les petits mythos, évidemment, parce que c'est la chose la plus personnelle, quelque part. Je mets beaucoup de moi. J'ai une liberté complète avec... dans les réserves mais on connaît nos limites. En même temps qu'on est un adulte, on connaît plus ses limites que qu'on est un enfant. En enfant, on se dit tout est possible. Bon, moi, tous les possibles sont ouverts à vous. Alors que quand on est un adulte, on se resserre un peu. Donc je sais où sont mes limites. C'est compliqué de dire les petits mythos, parce que c'est vrai compliqué. Parce que on se base sur la mythologie, mais la mythologie est très violente, elle est très, très tendancieuse. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que... C'est compliqué à raconter. Il faut qu'on le raconte de manière un peu plus fine, parce qu'on pourrait se faire interdire, justement, pour la jeunesse. Ou pire, les libraires pourraient nous dire... Parce que, pour revenir sur la censure et ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de censure d'État. La censure que je crains, par exemple, pour les petits mythos. Je prends l'exemple des petits mythos. Tout à l'heure, vous écouterez l'émission tout à l'heure, mais tout à l'heure, j'expliquais qu'il n'y a pas de censure, comme ça, l'État va dire « Non, cet article n'a pas le droit de passer ». D'abord, l'article est passé, donc de toute façon, c'est trop tard, il est passé. Ce qui se passe pour les journaux, leur censure interne, je ne dis pas d'État, c'est de dire qu'une association arrive et dise « Attendez, vous avez insulté telle catégorie, telle société, et vous m'avez diffamé ». C'est toujours des personnes, comment dire, des associations ou des gens qui font des procès aux journaux. C'est pas l'État. Il y a pas de ministre de l'information aujourd'hui. Il y en a plus depuis 1974, je crois, peut-être 76. C'était Perfit, je crois qu'il était. Alain Perfit. Il y a pas de gens comme ça. Il y a la vraie liberté. Alors on va se dire c'est super. On est une époque où il y a plein de liberté et tout le monde râle. Pourquoi les gens râlent? Parce qu'il y a des procès en permanence. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un se sent lésé, il fait un procès. Et donc, on ne peut pas raconter tout ce qu'on veut. Alors, on va me dire, dans un album, je peux faire ce que je veux. Non, si je fais quelque chose qui gêne, par exemple, eh bien, les libraires vont dire, bah non, j'en veux pas de cet album-là, je ne vais pas vous le vendre, parce que ça ne correspond pas à mes valeurs. Et donc, moi, je ne peux pas le vendre, l'album. C'est ce qui me gêne un peu dans la discussion du départ, c'est de s'imaginer qu'il y a l'État qui juge, qui censure. L'État... C'est la justice, à la limite. C'est pas l'État. C'est la justice qui dit non, ça, qui donne raison à telle association ou au journal. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Faut pas dire, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut dans la presse ou dans la BD. C'est pas vrai. On peut dire ce qu'on veut. Par contre, les conséquences, c'est qu'on a des gens qui peuvent se retourner contre nous.
Entre la presse et votre BD, dans laquelle vous vous sentez le plus créatif lorsque vous dessinez?
Ma BD, il y a une liberté. La presse, faut imaginer qu'on fait un dessin de presse. Alors, j'ai envoyé un texte et un dessin. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler. Voilà. Moi, j'ai un texte qui m'est imposé. Imposé, je mets des guillemets, évidemment. Hein, qui m'est proposé. Voilà, il y a un texte. Je reçois un texte et il faut que je trouve une idée rigolote pour l'illustrer. C'est une rubrique qui s'appelle Dialogue, qui existe depuis une trentaine d'années, puisque je fais ça depuis une bonne trentaine d'années. Depuis 89, justement. C'est-à-dire que c'est un lecteur ou des lecteurs qui écrivent. Et moi, la rubrique s'appelle Dialogue, donc c'est... Il y a une question ou un commentaire de lecteur, et ensuite il y a le journaliste qui intervient et qui donne son point de vue.
Donc on apporte un dessin que tu as fait.
Alors ça c'est le dessin par rapport au texte. Voilà.
Alors on peut expliquer donc ce qu'il y a sur ce dessin pour les auditeurs.
Alors c'est un dessin qui va paraître dans deux jours. C'est le hasard, parce que j'ai envoyé donc à l'école ça. Alors il est cadré différemment. Voilà.
Alors, tu peux nous dire ce qu'il y a dessus?
Alors, c'était des commentaires dans le texte sur la guerre, justement, d'actualité, entre le Hamas et Israël.
Israël-Palestine.
Israël-Palestine. Alors, c'est une guerre qui a une quarantaine... depuis 48, depuis... c'est une guerre qui n'en finit pas, qui attise les passions. Et donc, c'est plutôt des commentaires. Il faut que ça s'arrête, cette guerre, elle est épouvantable. Il n'y a pas de... Après, on peut avoir une sensibilité d'un côté ou de l'autre, ça c'est une chose, mais personne n'est pour cette guerre, personne n'est pour massacrer les autres, voilà. Enfin, j'espère. Et donc, moi j'avais un dessin à illustrer là-dessus. Alors, c'est le genre de chose qui est compliqué, parce que je dois faire plaisir à tout le monde, et je dois être un peu dérangeant. Et le texte, c'était... j'ai dessiné un Palestinien et un Israélien. Alors, toujours un peu caricatural, parce que moi j'ai un dessin caricatural, donc je n'avais pas commencé à dessiner... Alors c'était compliqué aussi, parce que dès qu'on représente un Israélien, par exemple, on a tendance à... On peut très vite se faire traiter d'antisémite. Alors voilà, donc j'ai fait le Palestinien à peu près avec le même nez, comme ça c'est très bien. Donc on peut pas me... Tout est dans la même... Voilà, faut faire super attention, parce que c'est très gênant de se faire traiter de raciste quand on est dessinateur ou d'antisémite. C'est vraiment très très gênant, parce que ça colle à la peau et ouais. C'est vraiment quelque chose qui est pas beau, quoi. Voilà. Au lieu de faire plaisir aux deux, j'ai essayé d'accabler les deux. Je trouve ça plus rigolo de critiquer les deux plutôt que de leur dire vous avez tous les deux raison. Ils ont, parce que fondamentalement, ils ont tous les deux tort. Donc voilà. Donc le texte, c'est ça. Nous ne pouvons pas perdre la guerre parce que les Palestiniens considèrent que de toute façon, on ne pourra jamais les foutre dehors. Ce en quoi ils ont fondamentalement raison, puisqu'on n'est pas raison. Et les Juifs, les Israéliens, c'est exactement pareil. Ils ne peuvent pas perdre la guerre non plus. Au fond, c'est une guerre qu'ils ne peuvent ni gagner ni perdre. C'est assez compliqué, donc c'était ce que j'essayais d'exprimer. Ça me permettait de dire à travers ça que ce n'était pas un dessin pour la guerre, au contraire, c'était plutôt pour la paix. Il faut trouver un autre angle, peut-être, voilà, pour faire la paix. Voilà, mais c'est un dessin compliqué au départ, ouais, effectivement.
Donc à découvrir dans la Nouvelle République. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour ou pas ? Oui, alors Brian, non. Non, tu voulais. Toute dernière question, peut-être ?
Juste une dernière question. Est-ce que vous avez le droit de dire, genre, vous supportez qui, genre, entre la Palestine et l'Israël ?
Non,
on n'a pas le droit.
J'ai pas le droit. J'ai le droit de le faire. Le rédacteur en chef a le droit de dire, je prends pas ce dessin-là parce que moi, je parle au nom du journal. Si je fais ça, il faut bien comprendre que moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais comme il y a deux groupes, il y aurait dû avoir tous les enfants qui devraient être là. Parce que, voilà. Bon. C'est-à-dire que la Nouvelle République n'est pas un journal d'opinion. Il y a deux types de journaux en France, enfin, plus que ça, mais si on prend les journaux quotidiens, il y a les journaux d'opinion et les journaux d'information régionale. La Nouvelle République, ce n'est pas un journal d'opinion. Donc, quand on n'est pas d'opinion, en général, on est du centre. Voilà, on n'est pas d'extrême droite et on n'est pas d'extrême gauche. Il n'est pas question. La Nouvelle République, elle informe des faits, mais elle ne donne pas forcément son opinion, sauf peut-être dans l'éditorial du journal, qui est tenu par le rédacteur en chef du journal, donc le responsable du journal. Moi, si je fais un dessin et que je donne mon opinion, il faut que je représente le journal. Donc le journal, il ne partagera pas forcément mon opinion. Donc le rédacteur en chef, qui n'a pas envie de se faire taper sur les doigts, dira non, je ne te le prends pas. Moi, si le rédacteur en chef a une opinion différente, il n'a pas de raison de me laisser à moi le soin de dire le contraire. Moi, j'accepte vraiment le fait. Si je vais aller dans un journal d'opinion, je vais travailler dans un journal satirique, un journal très à droite, un journal très à gauche. Ça, je peux le faire. Personne ne m'empêche de le faire. Et là, je peux donner mon opinion. Mais par contre, dans un journal généraliste, je n'ai pas le droit.
Au moins, c'est dit. On a fait le tour ? On va passer au troisième groupe, alors. Bah, en tout cas, merci à tous pour cette deuxième partie de programme. Restez à l'écoute de Journalistes en Herbe. On se retrouve tout de suite après.
La positive info, c'est en Touraine que ça se passe, sur le 89.3, avec Cité Radio. Journalistes en Herbe. Guillaume Colombat.
Dernière partie de Journalistes en Herbe sur Cité Radio. Nous sommes toujours avec les élèves du Collège La Bruyère de Tours et notre invité Philippe Larbier. Est-ce que tout va bien, Philippe ?
Tout va très bien.
Eh ben, merci encore d'être là aujourd'hui. Alors, on va enchaîner tout de suite avec un petit micro-trottoir réalisé par Lina Ebeni.
Pour moi, on ne peut pas parler de tout parce qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder, comme des fake news. Il ne faut pas influencer les gens à croire de mauvaises choses.
Par exemple, dire la mort de quelqu'un, mais il n'est pas forcément mort. Inventer des choses, par exemple, inventer une nouvelle maladie. On ne parle pas de tout non plus dans les médias. Il faut savoir de quoi on parle. Il faut bien être renseigné sur le sujet avant d'en parler.
On ne devrait pas parler de sujets qui peuvent être sensibles à certaines personnes, mais aussi des images qui peuvent effrayer les âmes sensibles. C'est pas super de mettre ça.
Pour moi, la liberté d'expression, c'est pas forcément avoir le droit de tout dire, parce qu'il y a certaines choses encore qu'on ne peut pas aborder comme ça sans l'accord de la personne sur laquelle on parle ou sur le sujet sur lequel on parle.
Par exemple, des choses sur le président. Par exemple, si c'est sa vie privée, on peut pas tout dire, on peut pas divulguer comme ça, si c'est sa vie privée à lui. Mais si c'est des choses importantes que la population devrait savoir, je pense que oui, on a le droit de savoir des choses.
Je pense que oui, on peut rire de tout. Tant que c'est dit avec humour, c'est vraiment une blague, c'est pas penser au fond de soi.
Je sais que critiquer une personne, ça peut être drôle, mais la personne qui en est atteinte, c'est pas drôle pour elle, donc il faudrait se limiter au raisonnable sur certains sujets.
Non, on n'a pas le droit de rire de tout, parce que ça peut blesser les gens. Par exemple, on ne pourrait pas rire des religions et des trucs culturels des pays.
Il y a eu un humoriste, Kev Adams, il a fait un sketch où il faisait un accent asiatique, où il y a eu des problèmes, il a été boycotté parce qu'il était considéré comme raciste.
Je pense qu'on peut rire de tout parce que si on a envie d'écouter, on écoute. Si on n'a pas envie d'écouter, bah, on part et on n'écoute pas. C'est notre liberté d'écouter ou pas. On n'a pas à critiquer un humoriste parce qu'on n'a pas aimé sa blague.
Voilà, un petit micro-trottoir réalisé par Lina Ebeni. Alors, vous êtes avec nous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment avez-vous travaillé pour réaliser ce micro-trottoir ?
On a demandé est-ce qu'on a le droit de rire de tout ? Et la deuxième question, on a posé est-ce qu'on a le droit de parler de tout sur les médias ou sur les infos ?
D'accord. Et donc, les élèves ont été tous ouverts pour vous répondre ?
Oui.
D'accord.
Et donc, il n'y a pas eu d'accrochage. En tout cas, ils ont été ravis de vous répondre au micro.
Oui, ils ont posé beaucoup de questions. Ils ont beaucoup, ils ont beaucoup parlé.
Philippe, quelle est ta réaction justement sur ce micro-trottoir ?
Je peux mettre un bémol peut-être sur ce qui est dit. C'est-à-dire que là, on parle de la presse en général, la presse ou des médias en général, parce que je ne pense pas que vous parliez que des journaux. Si on se limite qu'aux journaux, enfin à l'information par les journaux, il y a une chose vraiment qu'il faut savoir, c'est que les journaux qui sortent, qui sont édités, que vous pouvez acheter, qu'ils soient d'opinion ou pas, que vous trouvez dans les kiosques, ils ont un avantage énorme sur ce que vous pouvez voir sur Internet, les informations que vous pouvez glaner sur Internet. Les journaux, pour moi, c'est un état de droit. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que si vous voyez une information, une fake news, comme vous appelez ça, sur Internet, vous ne pouvez pas vous retourner contre Internet. C'est abstrait, c'est peut-être un gars dans n'importe quel pays qui a fait ça, ou un journal un média qui n'existe pas, ou qui peut changer l'adresse comme il veut. Un journal qui est imprimé, il y a une adresse. On peut se retourner contre eux. C'est-à-dire que si l'information est fausse, eux subissent les procès. Il n'y a pas tellement de médias sur Internet qui reçoivent des procès. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse les faire. Mais un journal, il peut y avoir des procès contre eux. Donc les informations, ils sont quand même tenus plus d'être vrais dans les informations que sur Internet. Internet, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas vérifiable. Un journal, on peut aller voir le journaliste, on peut lui dire « Où est-ce que tu as vu ça ? Où est-ce que comment tu as écrit ça ?» C'est ce que j'appelle, moi, un état de droit. C'est-à-dire que la loi est du côté du lecteur. C'est-à-dire qu'il peut se retourner contre le journal. C'est une petite parenthèse comme ça, qui est importante.
Donc, on a entendu effectivement le micro-trottoir. Justement, les autres qui sont avec nous, quand on parle de la liberté d'expression, qu'est-ce que cela vous évoque ?
Le droit à la publication, enfin, les limites auxquelles on peut avoir.
C'est important pour vous que la presse soit libre, justement, pour pouvoir faire exercer leur métier sans problème ?
Bah oui, sinon on pourrait pas dire ce qu'on voudrait, on serait pas peut-être pas assez justement informé, on aurait vraiment pas assez d'informations, mais comme certains l'ont dit, ils doivent pas non plus dire leur avis, ils doivent dire ce qui se passe en fait.
Est-ce que vous avez quelques questions à poser à notre invité ?
Comment avez-vous eu la passion du dessin ?
En dessinant, alors là c'est vraiment... C'est la chose la plus... Tous les enfants ont la passion du dessin. Tous les enfants aiment dessiner quand ils sont très petits. Puis en vieillissant, le plaisir disparaît ou la passion disparaît. Et puis voilà. Moi j'ai pas arrêté d'aimer ça, quoi.
D'où viennent vos idées ?
Ça sort de ma tête. Mes idées par rapport au dessin de presse, moi je m'inspire d'un texte quand même. Alors il y a une règle un petit peu que je me suis... Enfin, je pense que tout le monde travaille un peu pareil. C'est-à-dire que moi, je reçois le texte qu'il y a dans le journal. Tu ne connais pas, a priori, l'article, mais la rubrique. Donc, il y a ce qu'on appelle le gros titre qui est au-dessus, ce qu'on appelle un texte à cheval. C'est le titre, l'accroche de l'article. Et moi, je me base souvent sur l'accroche pour faire le dessin, simplement parce que la personne qui ne va pas forcément lire tout l'article, mais saura de quoi ça parle, puisque moi, mon dessin doit correspondre un peu à l'accroche. Voilà. Donc, après, il faut que je trouve une idée, comme ça. Bon, après... Je suis sûr que tu dois trouver des idées. Elles sont peut-être moins bonnes, mais tu en trouves aussi. Après, est-ce que les miennes sont bonnes ? Ça n'en sait rien.
Quels sont les sujets que vous abordez le plus dans vos dessins de presse ?
C'est les sujets de... En ce moment, c'est plutôt l'actualité. Alors, c'est souvent les mêmes sujets, parce que ce sont les lecteurs qui... Moi, je réponds à des lecteurs. Je me lève pas le matin en me disant « il faut que je trouve une idée pour la Nouvelle République ». Moi, je me base, moi, toujours sur un article. Un vrai dessinateur de presse est capable le matin de faire un dessin comme ça dans le vague et puis sur les moi je suis limité à mon texte voilà donc le sujet c'est les textes qui me les imposent.
Avez-vous déjà parlé de la liberté d'expression dans vos dessins?
Ça a dû arriver mais c'est un sujet vraiment très complexe parce que la liberté d'expression c'est terrible, enfin, je vais vous dire quelque chose d'un peu terrible mais parce que en soi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'émetteur, ça c'est la liberté d'expression, mais c'est le récepteur. Il faut aussi que les gens qui lisent aient ce sentiment-là. À la limite, c'est plutôt aux jeunes comme vous qu'il faut apprendre à réceptionner les informations. Les émetteurs, c'est une chose, mais c'est surtout les récepteurs. Au fond, c'est le problème, c'est est-ce que le public, je ne dis pas les lecteurs, mais est-ce que le public est sensible à la question ? Ce n'est pas le problème des journalistes, en fait. On pourrait écrire n'importe quoi. Si celui qui reçoit l'information sait la décoder, ça passera très bien. Le problème, c'est que les jeunes aujourd'hui, ou les gens aujourd'hui, se limitent un peu plus sur l'information, ils la connaissent sur un slogan, sur une phrase, et qui peut être dite n'importe comment. Personne n'ira vérifier sur des photos qui peuvent être tronquées, sur des événements qui sont faux, et le lecteur n'ira pas vérifier. Au fond, ce n'est pas tellement la liberté d'expression qui est importante, c'est la curiosité des lecteurs. Mais ça, c'est un chantier.
Est-ce que vous avez déjà regretté certains de vos dessins ?
Alors, j'ai été... quand ils étaient ratés, oui. Il y a une fois, ça m'a extrêmement troublé. J'ai été dessinateur il y a très longtemps, de procès. Je dessinais des gens dans les prétoires. Parce qu'il n'y a pas d'appareil photo dans les procès, depuis l'affaire Marie Bénard, je crois. Parce qu'à l'époque, les appareils photo faisaient beaucoup de bruit. Mm-hmm. Et donc, ils ont dit, on arrête les appareils photo. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des dessins où on ne filme pas les procès. C'est devenu quasiment une question déontologique aujourd'hui, alors qu'à l'origine, c'était une question technique. Et j'avais fait une affaire épouvantable qui pouvait même être drôle, mais enfin, c'était quand même de la mort dedans. Et j'avais dessiné les inculpés. Et entre-temps, quelques mois plus tard, l'inculpé est mort, s'est suicidé en prison. Enfin, le coupable, en l'occurrence, c'était coupable. C'est un jeune homme en plus. Bon, c'est une affaire dramatique. Hein. Et la mère a écrit au journal une lettre assez en disant voilà, comme le journal, pour annoncer la mort du gars, avait remis mon dessin. Et mes dessins sont toujours un peu caricaturaux quand même, ils sont pas très très réalistes. Elle avait dit, vous foutez mon fils qui s'est suicidé, vous mettez une caricature. Et là, mon dessin avait une prise qui n'était pas du tout ce que je voulais donner. Voilà. C'est vrai que quand on dessine dans les procès, et ça, il y a peut-être encore plus d'acuité là-dedans, dans les procès que dans l'actualité. L'actualité est générale, chacun a son avis, on est pour ou contre. Mais on attaque, bon, après, on va faire la caricature du président, mais enfin, il est habitué, il est là pour ça aussi, c'est normal, c'est de bonne guerre. Mais un procès, si on commence à dessiner, par exemple, je vous donne un exemple très simple, hein. On fait un procès et on dessine la mère de l'assassin. Ça arrive. Pour moi, c'est la victime la plus grande, la mère de l'assassin, quand elle a peu de morale. Elle y est pour rien, elle culpabilise, elle est absolument pour rien dans cette affaire-là, et elle prend tout sur elle. Si jamais on fait un dessin un peu caricatural, on a l'impression de se moquer d'elle, c'est vrai que la réception peut être épouvantable. Voilà. Ou même l'assassin qui se sent innocent, ou la victime. C'est là où on attaque, parce que là où il y a la mort aux assises notamment, c'est les choses les plus graves, quoi. Et se moquer ou de rater quelque chose, ça peut faire vraiment un mal de chien aux gens qui reçoivent le dessin. Et là, en tant que dessinateur de presse, puisque là je suis dessinateur de presse aux assises, faut prendre ses responsabilités. J'ai arrêté.
À votre avis, peut-on rire de tous les sujets ?
Ah bah oui, si on a de l'humour.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Eh bien, merci beaucoup, Philippe, d'être intervenu aujourd'hui sur Cité Radio pour cette belle émission de Journaliste en Herbe. Comme quoi, la liberté d'expression, la liberté de la presse, c'est un sujet complexe mais important à évoquer. On espère que tu as pris beaucoup de plaisir à participer avec nous.
Absolument. Non, mais c'était toujours intéressant. Et puis, c'est toujours aussi intéressant d'écouter. Et puis, surtout, aussi d'expliquer. Parce qu'en fait, quand on explique, on finit par comprendre soi-même les choses. En fait, on se les explique à soi-même aussi. Donc, on les oralise.
Voilà. Très bien. Merci beaucoup Philippe d'être venu aujourd'hui dans cette émission. Merci à tous les élèves et à la direction et aux équipes du Collège La Bruyère. Merci également à Madame Audrey Romani et à la documentaliste Madame Cécile Léger. N'hésitez pas à écouter notre programme sur notre site citéradio.fr. Passez une belle journée à l'écoute de nos programmes et à très bientôt.
loin derrière le jour de notre départ.
S'il était possible un temps de se projeter,
j'aimerais qu'on soit unis à l'arrivée.
Je suis sûr qu'il y a la joie, la bonne humeur. J'imagine au fond de moi les cris du cœur. Y'a des claps, y'a des sifflets qui nous rassemblent.
J'en ai les oreilles bouchées tellement ça tremble. Laissez-nous y croire.